Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
Hola a todos, es Lucía Campanella que les habla. Oír con los ojos, que hoy muy bien podría llamarse Écouter avec les yeux, ya que será un programa muy francés, está desde el FILUA, el Festival Internacional de Literatura, en su edición montevideana 2017, para conversar con uno de los invitados internacionales de mayor relieve que tiene el festival este año. Los invito ahora mismo a escuchar este diálogo sobre libros y lecturas, sobre música y músicos, con el novelista francés Jean Genet, autor, por ejemplo, de un libro que tanto a mí como a Fernando nos ha gustado mucho, un libro que se titula sencillamente Ravel.
Como esta, la de viajar a países relativamente lejanos, tan distintos del suyo, por pocas horas y a eventos relacionados con la literatura que indudablemente tienen mucho de compromiso, de protocolo, de encuentros que, porque no son lo bastante frívolos como para desalentar el ánimo.
Bon, Fernando est en train de évoquer cette expérience que vous êtes en train de faire, de venir dans un pays lointain. Pour participer à l'occasion d'un festival de ce type où il y a bon, énormément de rendez-vous, un peu du protocole, des rencontres, peut-être aussi un peu de la frivolité.
¿Qué diría que le queda como sustancia? ¿Cuál es para usted la parte más valiosa de un evento así que espera encontrar? ¿Qué le gustaría ver, llevarse con él a París, por ejemplo, de Montevideo?
Et donc la question, c'est que qu'est-ce qui vous reste comme substance de tout ceci? Quelle est pour vous la partie la plus intéressante dans tel événement comme un festival littéraire? Et qu'est-ce que vous espérez trouver ou même emporter d'ici, de Montevideo?
Oh ben, d'abord, moi je vais très peu souvent dans les festivals littéraires.
C'est... Bueno, para empezar, él va muy poco a menudo a los festivales literarios.
Mais comme je suis venu plusieurs fois, deux fois jusqu'ici à Montevideo, et que j'aimais bien, que j'aime bien cette ville, j'aime bien ce pays, ben j'avais envie de venir là, parce que en général, la plupart du temps, je préfère pas y aller. Mais ici, je trouvais que c'était un plaisir de venir à Montevideo. Et puis, on m'a dit que j'avais quelques lecteurs dans ce pays, donc ça me touchait et j'avais envie d'être là.
Bueno, no siendo asiduo a los festivales literarios, Jeanne Genos, sin embargo, ha venido ya dos veces a Montevideo y le ha gustado esta ciudad. Y entonces, según dice, le gustaba la idea de venir una tercera vez a Montevideo. Y además ha sabido que tiene algunos lectores en Montevideo, en Uruguay, en general quizás, y que eso lo ha conmovido de alguna manera y que ha pensado entonces que era una buena idea venir.
Llevarse a algún lector más, entonces, ¿por qué no?
¿Vous comptez peut-être remporter d'autres lecteurs?
Ça, je sais pas. Je sais pas, ça serait très bien. Mais l'idée que si loin de chez moi, il y ait quelque part des 2 ou 3 personnes ou 20 ou 30 personnes qui lisent mes livres, c'est déjà un grand plaisir.
Muy bien. Dice que, por supuesto, que no lo puede saber, pero que el hecho de pensar que en un lugar tan lejano haya 2, 3 o 20, 30 personas que amen sus libros es algo que le da un gran placer.
Bueno, Lucía, ahora vamos a abrir un capitulito para la literatura francesa y le vamos a preguntar si cree que Francia tiene su libro, como España tiene El Quijote o Italia tiene La Divina Comedia, o un autor, como Inglaterra tiene a Shakespeare o Alemania a Goethe.
Bon, c'est une question en général sur la littérature française. Est-ce que vous croyez que la France a un livre, tout comme l'Espagne peut avoir Don Quichotte, ou l'Italie, La Commedia, ou même un auteur, comme on parle de Shakespeare pour l'Angleterre, ou de Goethe pour l'Allemagne? Est-ce que...
Claro, y aquí nos preguntamos eso, porque, bueno... Hay muchos autores en la literatura francesa y todos son igualmente grandes y no sabríamos decir si para Francia hay uno de ellos que sea el que brilla con luz más intensa desde su tiempo y desde sus obras, por decirlo así.
On se pose cette question parce que on a l'impression que qu'en France il y a énormément de grands écrivains on voudrait savoir si vous avez une opinion sur ceci, dans le sens s'il y a un de tous, c'est-à-dire une liste qui ne serait pas complète, mais peut-être si on pense à Rabelais, à Montaigne, à Molière, à Hugo, Stendhal, Flaubert, Verlaine, Proust, est-ce que tous sont également importants ou est-ce qu'il y a un que vous pourrez peut-être détacher de cette liste pour les nommer comme l'écrivain, les grands écrivains?
J'ai droit à un ou j'ai droit à deux?
Vous avez droit à un.
À un. C'est difficile parce que là, vous nous avez donné une liste où il y a en effet des auteurs qui sont des lumières très importantes pour nous, pour moi. Et spontanément, dans cette liste-là, par exemple, je vous dirais pas du tout Stendhal, que je peux pas lire. Enfin, que je peux lire, mais que je n'aime pas lire. Mais il y a deux auteurs qui seraient en rivalité, ça serait Montaigne, évidemment, mais ça serait surtout Flaubert et Proust.
D'accord.
Parce que ce sont les deux auteurs que spontanément, je peux relire de façon naturelle. Il y a des livres avec lesquels il faut un peu se forcer pour les reprendre. Mais Flaubert, là, il y a quelques jours, j'ai relu les trois contes. Et là, en voyage ici, en Uruguay, j'ai emporté un volume de La Recherche du temps perdu de Proust. Bon, si je dois vous dire un auteur, je dirais Gustave Flaubert. Et si je dois dire un livre, je dirais Madame Bovary.
D'accord.
Voilà.
J'allais parier sur l'éducation sentimentale.
Ah non, c'est très très beau l'éducation sentimentale.
D'accord. Bon, je vais...
Bien sûr.
Bien. Primero, Charles Chenon se nos preguntó si tenía derecho a uno o a dos. Yo le dije que a uno solamente. Bueno, entonces empezó a hacer un poco de... a eliminar en esta lista de todas grandes luces, ¿no?
Claro.
Luminarias. Claro. Decía, por ejemplo, Stendhal, no lo puedo leer, no me sale naturalmente leerlo.
Interesante.
Si hubiera que elegir, la elección estaría entre Flaubert y Proust. Y nos contaba que recientemente ha releído los tres cuentos de Flaubert, que le siguen pareciendo extraordinarios, interesantes, y que trajo para leer en el viaje a Uruguay un volumen de A la recherche du temps perdu. Y que son cosas que logra releer de manera natural, que vienen. Entonces, finalmente, si hay que hacer una elección, sería Flaubert. Y si hay que elegir una novela, Madame Bovary.
Sí, sí.
C'est un très bon choix.
C'est un très bon choix, mais oui, c'est un très bon choix. Je suis tranquille pour faire ce choix, parce que... Mais un autre jour, je vous aurais dit Bouvard et Pécuchet.
Bouvard et Pécuchet,
oui.
D'accord.
Qui, en fait, c'est peut-être Bouvard et Pécuchet, c'est peut-être le livre que j'ai relu le plus souvent de Flaubert. Mais Madame Bovary, pour moi comme pour beaucoup de monde, c'est pas du tout original. C'est un immense roman parce que à l'intérieur de ce roman, c'est comme si chaque phrase était un roman.
Muy bien. Bien, entonces retomando este tema, nos decía que recientemente quizás más que Madame Bovary sería Bovary de Coucher, que es una novela que la ha releído en muchas oportunidades, pero que Madame Bovary sigue siendo una novela de la que se podría considerar que cada una de sus frases es en sí una novela.
La historia de la novela francesa es larga y muy rica. Y es claro que de Hugo a Proust hay un camino de transformaciones muy notables que siguió a la evolución del género y que fue reflejando de maneras, bueno, acaso incalculables, las épocas. ¿En qué momento de la novela, le queremos preguntar esto a Lucía, en qué momento de la novela francesa, está, para él, estamos ahora, ¿no? ¿Qué clase de novela es la novela de nuestro tiempo, si es que se puede identificar una?
Bien. Bon, Fernando vient d'évoquer l'histoire du roman français, que c'est une histoire longue, très riche, et, où il y a clairement des chemins de transformation d'Hugo à Proust, par exemple, très remarquables. Et sur cela, on se demande dans quelle étape du roman français on se trouve maintenant, dans les moments contemporains. Quel est le roman du moment contemporain? Si est-ce qu'on pourrait faire une classification, quel est le roman qu'on peut écrire et qu'on peut lire aujourd'hui?
C'est difficile à dire parce que en France, comme ailleurs sans doute, le roman il est souvent en compétition, enfin en rivalité avec une autre forme. Alors il y a une quarantaine d'années, par exemple, il y a 30-40 ans, il était en rivalité avec la théorie, et on lisait beaucoup plus de philosophie, etc., de politique, bon, de psychanalyse. Mais l'état du roman, il est un peu curieux, parce que de façon régulière, on décrète qu'il est faible, qu'il est affaibli, et qu'il faut le remplacer par autre chose. Alors, ces dernières années, je vous laisse
traduire. S'il vous plaît, merci, parce que c'est intéressant. Dice que es difícil de decir que la novela en Francia, como en otros lugares, normalmente está rivaliza con otras formas, que en particular en Francia, hace 30 o 40 años, esta rivalidad era entre la novela y la teoría, se leía muchísima filosofía, otras formas de producciones del pensamiento, y que además regularmente hay una constatación o hay una idea de que la novela se ha debilitado, que está en un mal momento, y bueno, y ahí quedamos. Donc régulièrement on dit que le roman est faible.
Oui, et puis il est... Il y a la question des modes aussi, parce que ces dernières années en France, il y avait quelque chose qui peut-être pas propre à la France, mais qui était très, très insistant, c'était la mode de l'autofiction, c'est-à-dire que les gens racontaient leur vie en la changeant plus ou moins, et que ça produisait du roman, enfin on appelait ça roman, enfin que ça produisait de la littérature, disons. Bon. Alors ça a été la mode pendant 10 ans, 15 ans. Et puis depuis quelque temps, il y a quelque chose qui apparaît. Ils appellent ça l'exofiction. C'est-à-dire prendre un personnage réel qui a existé et faire à partir de lui un objet romanesque. Alors ça, c'est un peu ambigu parce que on ne sait pas très bien ce qui est la limite de la biographie et du romanesque.
D'accord. Bon, Jean Genot evoca el asunto de la moda y dice que hace unos años, durante incluso unos 10-15 años, la moda era la de la autoficción, es decir, la de aplicar procedimientos ficcionales a la propia vida. Es decir, la gente contaba más o menos su vida aplicando ciertos procedimientos de la ficción y que esto producía lo novelesco, producía lo literario. Mientras que ahora lo que se está viendo, esta moda nueva, es lo que se llama la exoficción, se trata de utilizar estos procedimientos novelescos, literarios, para aplicarlos a personajes conocidos o personajes de la vida real, ¿no? ¿Vos pensé, por ejemplo, justo por poner un ejemplo, a Laetitia de Jacques Blanca?
Oui, je l'ai vu.
Ce type de roman.
Je l'ai pas lu, mais je vois ce que c'est. Oui, par exemple. Oui, par exemple.
Le preguntaba, por ejemplo, si una novela que salió el año pasado, se llama Laetitia, de un escritor que se llama Jablonka, Iván.
Iván.
Jablonka.
Sí, es un ejemplo de esto.
Que es un ejemplo de esto de exoficción. Él retoma un caso de la Crónica Roja, prácticamente. Pero bueno, un caso real para hacer una biografía de una persona que vivió esta Leticia del título.
Sachant que Jablonka était un historien. Au départ, il n'est pas du tout un romancier. Mm-hmm. Ce qu'il a fait jusqu'ici, c'est des ouvrages. C'est un chercheur en histoire, mm-hmm, qui a fait des textes qu'il présente comme de la littérature, mais à partir de recherches d'historien professionnel.
Nos cuenta y nos hace acordar de que el escritor Jablonka es un historiador profesional que ha escrito libros de historia, y que este libro, que está presentado como ficción, sin embargo, tiene unos procedimientos de escritura y de investigación que son los de un historiador profesional.
Es muy interesante, y de todo eso que nos cuenta Lucía, me parece que estaría bien preguntarle entonces cómo definiría él, en qué palabras, uh-huh, pondría él su lugar en ese panorama.
Et donc dans ce panorama que vous venez plus ou moins de dessiner pour nous, quelle serait votre place par rapport à ces modes que vous avez évoqués?
Eh bien, par rapport à la mode de l'autofiction, moi je suis tout à fait étranger à ça parce que j'ai pas envie de raconter ma vie qui est pas très et d'ailleurs la question c'est pas que la vie soit intéressante ou pas, la question c'est qu'on ait envie de la raconter, mm-hmm, moi pas.
Bueno, por ejemplo, relativo a la moda esta de la autoficción, se declara completamente extranjero, no necesariamente porque su vida no tenga interés, sino porque no tiene ganas de contarla. Entonces, lo importante que él ve aquí no es el interés que la propia vida pueda tener, sino más bien la posibilidad del deseo de contar esa vida.
Et puis cette histoire de ce qu'on appelle depuis, c'est très récent, hein, cette histoire d'exofiction, j'ai découvert ce mot il y a quelques mois, je ne connaissais pas, et donc c'est cette espèce de nouvelle mode, c'est donc de travailler sur des personnages réels. Mais moi pendant 8 ou 10 ans, je l'ai fait parce que j'avais envie de travailler. Bon, de toute façon, j'ai rien inventé, hein. Il y a des gens qui ont fait ça bien avant moi. Mais moi, j'avais envie, oui, de prendre des personnages historiques réels et d'en faire un peu, à la fois de raconter leur vie, mais c'était pas une biographie, mais de faire de les traiter comme des personnages romanesques.
Bueno, entonces, respecto de la exoficción, que nos dice que es una cosa muy reciente, que hace pocos meses incluso que él ha descubierto este término de exoficción, dice, bueno, yo de alguna forma en estos últimos, durante 8 o 10 años me dediqué a eso porque me interesaba tomar a personajes históricos reales, y hacer con ellos no una biografía, sino una novela, aplicar procedimientos ficcionales propios de la novela.
Mais maintenant que apparemment c'est à la mode, j'ai plus du tout envie de faire ça parce que je vais quand même pas suivre la mode.
Ahora que parece que está la moda, entonces no lo va a seguir haciendo porque no quiere estar a la moda.
Como ya nos dijo Lucía, ¿cuál sería su novela favorita del siglo XIX, ¿no? En una de las respuestas anteriores cuando habló de Madame Bovary, vamos a preguntarle entonces por autores franceses de los últimos años o que estén escribiendo y publicando ahora mismo, ¿qué le gustaría alentarnos a conocer?
D'accord. Bon. Et dans ce panorama des auteurs français qui sont en train de produire maintenant, est-ce qu'il y a des auteurs que vous voudriez nous faire connaître, que vous lisez normalement, que vous pourriez recommander à des lecteurs?
Vous voulez dire des auteurs contemporains?
Si.
Des auteurs qui écrivent en ce moment?
Qui écrivent en ce moment, si.
Oui. Moi, il y a deux auteurs que je lis avec beaucoup d'attention et qui écrivent des choses très différentes, mm-hmm, l'un de l'autre. Et en plus, ils écrivent des choses très différentes de ce que je fais moi. Mm-hmm. Donc c'est bien. C'est Pierre Michon, mm-hmm, qui est traduit en espagnol.
Ce serait traduit.
Et Olivier Cadio. Je ne sais pas s'il est... Je ne suis pas sûr qu'il ait les livres traduits.
Olivier Cadio.
Olivier Cadio, C-A-D-I-O-T. Parce que c'est quelqu'un qui vient d'un travail expérimental de poésie et qui maintenant travaille sur la prose, sur une forme romanesque, mais qui se méfie aussi du roman. mais qui intègre la dimension de suspense un peu du roman, enfin de suspense sur la matière de la langue. Et je trouve que c'est une des choses les plus neuves qui se fassent en ce moment en France. Et voilà. Et Pierre Michon, d'autre part, est très connu quand même. Pas la peine de le présenter.
D'accord.
Tenemos apuntes.
Muy bien. Bueno, entonces tendríamos dos autores que son muy diferentes entre ellos y son también diferentes a lo que Jean Genet hace. Uno de ellos es Pierre Michon, que está traducido al español, del cual podríamos hablar quizás en alguna otra ocasión más tiempo.
Claro.
Es un autor muy interesante, yo conozco poquito, pero me parece interesante. Y Olivier Cadieux, dice que Cadieux seguramente no esté traducido, es alguien que viene de la poesía y de la experimentación, pero que ahora trabaja con la novela y que escribe una forma de novela que desconfía de la novela, esa ha sido la expresión, y que integra el elemento del suspenso, que le parece importante dentro de la novela, en la materia del lenguaje, de la lengua utilizada.
Muy bien.
C'est une très bonne présentation, on a vraiment envie d'aller lire.
J'espère. Mais vous savez, il y en a d'autres qui font des choses très intéressantes, mais Pierre Michon et Olivier Cadieux, ce sont mes amis. Alors j'aime bien aussi faire de la publicité. Mais ce que je dis, c'est sincèrement, crois vraiment que ce sont des écrivains très importants.
D'accord.
Mais comme en plus je les aime bien, je parle d'eux.
C'est bien.
Mais il y en a d'autres.
Hay otros, dice Jean Genet, pero que Pierre Michon, Olivier Cadieux son amigos y que le parece bien entonces poder hacerles publicidad, darlos a conocer. Le gusta la idea de difundir su existencia, su obra.
La idea en cuanto a para dónde tenía que orientar la luz de su faro crítico.